7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Cette semaine, aujourd'hui plutôt, on va parler des repates, retour aux sources dans leur pays d'origine. C'est une semaine importante pour ceux qui sont entre les deux continents parce qu'il y a la Journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux et il y a la Diaspora Entrepreneurship à Paris dont vous êtes le fondateur. Bonjour Papa Wan.
Bonjour Emmanuel.
Papa Wan, vous êtes vous-même issu de la diaspora malienne de France. Vous avez fait des études à l'université de Jussieu. Vous avez travaillé dans une grande entreprise de téléphonie mobile pendant quelques années. Et puis vous vous êtes réinstallé au Mali pour produire des programmes télévisés. Votre société s'appelle Diaspora Sud Vision. Vous êtes vraiment le prototype du repat.
Exactement. Hein ?
Vous êtes d'accord avec ce mot ?
Je suis tout à fait d'accord.
Oui.
Tout à fait.
Également avec nous, Ami Samb, sénégalaise, arrivée en France en 2010 pour un master après Polytechnique au Sénégal. Bonjour Ami.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Vos deux parents sont entrepreneurs.
Oui.
Combien d'enfants dans la famille ?
12.
12 ?
Oui.
Et tous n'ont pas quitté le Sénégal ?
Non, tous n'ont pas quitté le Sénégal. Alors, j'ai ma grande sœur ici en France, d'ailleurs, qui doit être en train de m'écouter. Bonjour. Et le reste sont au Sénégal. Donc voilà.
Alors vous préparez votre départ de la France après vos études en France et le lancement d'une chaîne de restaurants à base de produits locaux sénégalais, ça va s'appeler Félane.
C'est ça.
Dans un pays, c'est vrai, où le mouvement consommer local est très fort, il y a une vraie culture là-dessus, une vraie fierté, vous allez nous en parler. Mmh. Nounou Dembaga également avec nous, 31 ans, français de parents maliens. Bonjour Nounou.
Bonjour Emmanuel.
On vous a déjà entendu dans cette émission au téléphone à l'occasion d'une émission consacrée à la cuisine. Vous êtes déjà dans la restauration à Bamako, vous travaillez à la création d'une école hôtelière, mais pour le moment vous avez monté une société de plats tout prêts pour
les entreprises et services traiteurs également.
Voilà, les gens qui travaillent beaucoup et qui ont besoin de se faire livrer très
c'est
vite
ça, exactement,
quelque
ouais.
chose de bon à manger.
Voilà.
Jean-Philippe Akpou, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 27 ans, vous êtes ivoirien, en France depuis 2015 et pour vos études. Vous êtes en thèse d'écologie.
Oui.
Et vous travaillez à la mise en place d'une plateforme digitale pour créer un réseau d'entraide entre étudiants. Alors bien sûr, vous allez nous raconter vos parcours, vos difficultés pour entreprendre sur le continent, mais surtout pourquoi vous voulez quitter la France quand tant d'autres rêvent de tenter l'aventure en sens inverse. Et quant à vous les voisins, si vous êtes un repat chez vous, appelez-nous pour réagir, pour témoigner de vos difficultés de réadaptation. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71, c'est le téléphone WhatsApp également, et vous pouvez poster vos messages écrits, si vous êtes timide, sur nos réseaux sociaux. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
L'attitude qui gagne, ouais, enfin, c'est pas si simple hein, non plus, Papa Wan, vous en savez quelque chose. Vous êtes le doyen là, du groupe.
Exactement, exactement, Emmanuel.
Quelle est la mission de Diaspora Entrepreneurship, vous qui êtes un entrepreneur depuis plusieurs années au Mali?
Exactement, donc la mission de DSV, Diaspora Sud Vision, c'est-à-dire nous offrons des solutions d'accompagnement, des solutions d'accompagnement de qualité, des porteurs de projets issus de la diaspora africaine de France ici pour un investissement dans leur pays d'origine. Et nous avons trouvé des partenaires financiers qui financent ces jeunes qui ont des bons projets.
Comment vous avez trouvé des partenaires financiers ? Qui sont-ils ? Ça, c'est la question qui intéresse tout le monde.
Exactement. Alors, moi, quand j'ai fait la conception de Diaspora Entrepreneurship, j'ai eu la chance, j'avais un ami qui était directeur de banque, qui s'appelle Hassan Ouastani, peut-être qu'il m'écoute. Hein. Donc voilà, donc j'ai parlé de mon projet à Hassan.
Quelle banque ?
La banque, c'est BIMSA, B-I-M-S-A. Donc là, il était directeur de banque et c'était chez lui. On discute beaucoup. J'ai parlé de lui, j'ai dit, bon, j'ai trouvé, parce que moi, quand je venais en France ici, j'étais très sollicité dans le métro, dans le train. Les gens, ils me voyaient, ils m'interpellaient, ils me demandaient, Papa Wan, ben, vous avez réussi à rentrer chez vous au Mali. Ben, aidez-nous, nous, on est là, on a aussi envie de rentrer chez nous, mais on sait pas comment. Et vous êtes parti, vous êtes en train de faire des émissions comme Kassanga, Kassaramaya, il y en a beaucoup.
C'est ça, donc, vous êtes rentré pour devenir producteur de télévision, de contenu télévisé.
Oui, on avait cette vision. Et quand on quittait ici, nous, c'était pour aller être les précurseurs. Parce qu'on voulait être les premiers à créer ces concepts-là au Mali. Et donc voilà, donc quand on a créé, ça a eu un succès tel qu'on n'imaginait même pas nous. Donc forcément, les gens en France ici regardaient l'émission. Et déjà, donc c'est facile, vu qu'on passait constamment à la télé, les gens nous interpellaient dans le métro, dans le train. Et c'est de là que, à force que les gens ils viennent m'interroger, me demander de les aider à rentrer chez eux aussi, j'ai réfléchi à ce concept. J'ai dit, il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai dit, bon, je ne peux pas me substituer aux autorités, à tout le monde. J'ai dit, moi, tout ce que je peux faire, c'est d'aider les gens comme mon propre cas. J'ai imaginé un projet, je suis rentré chez moi, je l'ai fait. Donc je veux aussi m'intéresser à ceux qui ont des projets ici en France et qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine avec ce projet entrepreneurial. Et c'est là, j'ai discuté avec Hassan Ouastani, le DG de la BIM, et il m'a dit, pape, c'est un projet qui est très bien et moi je suis là, je suis directeur des banques, je vais financer les projets.
Donc parce qu'il y a cette énorme demande d'accompagnement pour le retour au pays.
Exactement, Emmanuel. Vous ne pouvez même pas imaginer, moi en France ici, honnêtement, à chaque coin, à chaque recoin, les jeunes viennent me voir. Ils viennent me voir, ils me parlent de leur projet. Moi, j'ai envie de faire ça. À la limite, ils pensent même que c'est moi qui finance, c'est pas moi. Moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me font confiance.
En même temps, quand vous êtes à Bamako, les jeunes vous arrêtent aussi pour vous dire « Mais comment t'as fait pour partir, non ?» Aussi.
Pas pour partir, mais comment t'as fait pour venir ?
C'est quand même ça la vraie question sur place.
Bon, oui, il y a des gens qui veulent toujours venir en France, hein, ça existera toujours. Mais surtout, comment vous avez fait pour mettre en place votre projet? Parce que, bon, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les défis, j'aime tout ce qui est difficile, j'aime pas la facilité. Et donc, voilà, on a mis en place nos projets très difficilement. Et voilà, donc avec l'impact, le succès...
Alors, il y a un concours qui récompense aussi les meilleurs projets, où on gagne aussi un accompagnement financier. C'est la troisième édition. Aïssata Diakité a été la première lauréate.
Exactement.
Aujourd'hui, elle est célèbre, et pas seulement au Mali, pour Zaba Anju, ce sont des jus locaux.
Hein. Tout à fait.
Elle emploie plus de 60 personnes aujourd'hui.
Exactement.
Même si elle en vit difficilement, hein, il ne faut pas se leurrer, la route est longue. Comment vous sélectionnez les porteurs de projets, ceux qui vous semblent les plus enclins à réussir leur retour avec un business?
Déjà, par rapport à Aïssata, c'est une lionne, c'est une battante. Je suis très fier de Aïssata.
Et vraiment, on lui passe le bonjour parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois dans l'émission, Aïssata, voilà. Si tu nous entends.
Voilà, donc très dégourdie, donc se débrouille pas mal. Nous, en fait, les sélections, on le fait déjà sur notre site. On a un site, je me permets de le citer, hein, peut-être diaspora-entrepreneurship.com. Et donc, les candidats, ils vont s'inscrire là-bas. Il y a un formulaire qu'ils remplissent. Et après, on les convoque tous. J'ai la chance d'être accompagné par la Banque mondiale, qui me laisse au chef de la Banque mondiale ici à Paris, sur l'avenue d'Iéna. Donc, on fait les présélections là-bas. On les appelle tous. Ils viennent, on fait les présélections. On a un jury d'experts. Ils peuvent en témoigner.
Hein. Ils ont passé
l'épreuve de feu. On a passé l'épreuve, c'est ça.
L'épreuve de feu, c'est pas évident. Donc, voilà, on les reçoit un à un et ils se défendent. Et après, les meilleurs projets sont sélectionnés. Et donc, du coup, après cette sélection, on les accompagne dans leur pays d'origine. Et c'est de là qu'ils vont être accompagnés, mis en relation, coachés. Et on a des incubateurs partenaires qui sont sur place. On a nos partenaires financiers qui sont là-bas, les partenaires commerciaux. On a tous nos partenaires qui sont là-bas. Donc, c'est là que tout se passe. Dans le pays d'origine.
Alors, il faut quand même que vous expliquiez à nos auditeurs qui sont beaucoup sur le continent africain, Ami Samb, Nounou Dembaga, Jean-Philippe Apkou, pourquoi vous voulez rentrer au pays, Ami Samb?
Alors, pourquoi je veux rentrer au pays? Parce que, tout simplement, à un moment donné, moi, je voulais faire plus. C'est-à-dire, je voulais donner plus. J'avais mon travail ici, j'étais bien payée, j'avais ma sécurité, mais à un moment donné...
Vous avez été consultante pendant plusieurs années, après le master en
c'est
France.
C'est ça, j'ai été consultante en tant qu'analyste finance pendant 6 ans dans le domaine bancaire. Et j'étais bien payée, j'avais ma sécurité, mais à un moment donné, moi j'avais envie de plus. C'est-à-dire j'avais envie d'impacter plus les gens. Et donc dans cette envie-là, j'ai cherché quoi faire pour que ça puisse se réaliser. C'est dans ce sens-là où j'ai eu plusieurs idées qui me sont venues en tête. Donc voilà.
Avec notamment le projet de restauration, mais qui est un projet social. Ouais. On va en parler. Et les autres, Nounou Dembaga, vous n'avez jamais vécu au Mali.
Alors j'ai vécu au Mali, j'ai une expérience de 2 ans au Mali en 2003.
Ouais, quand vous étiez adolescent.
Ouais, j'étais adolescent, donc c'était pas pareil. Ouais, j'avais été là-bas et.
Vous êtes né en France.
Je suis né en France, grandi en France, c'est ça. Ouais. Mmh. Né en France, grandi en France, mais je pense que le retour, il se fait, c'est qu'à un moment donné, on est pour être français né ici. Voilà, on est un peu les deux. Donc on se cherche un petit peu, quoi. En étant français, on se dit qu'on est africain, et en étant africain, on se dit qu'on est français. Donc je sais pas, pour ma part, ça a été. Je sais pas, ça a été inné, ça a été automatique, et c'est aussi une façon peut-être de répondre à cette complexité de la double culture. Et puis voilà, donc j'ai fait ce que j'avais à faire ici en France. Donc j'ai créé une société qui s'appelait La Toque Noire, qui a eu un peu de succès, qui fonctionne d'ailleurs. Et j'avais cette envie aussi de pouvoir transmettre.
Après voilà. Des études de cuisine.
Voilà, c'est ça.
Et pour vous, Jean-Philippe Acpou,
oui.
C'était, y avait un moteur particulier. Alors vous n'êtes pas encore rentré, vous terminez votre thèse, mais
tout
vous êtes déjà sur les rails d'un retour en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, oui. En fait, moi tout simplement, je veux rendre l'appareil à mon état, en fait, à la Côte d'Ivoire, parce que ce que je suis, c'est entièrement la Côte d'Ivoire qui a permis à ce que je sois là.
Vous avez fait le lycée en Côte d'Ivoire ?
J'ai fait le lycée en Côte d'Ivoire, j'ai fait une école de statistique, j'ai fait l'UNCA en Côte d'Ivoire, et ensuite je suis allé en Algérie, grâce à une bourse du gouvernement, voilà, bah, une bourse de mérite, bien sûr. Voilà. Et là encore, je suis financé par l'État ivoirien pour ma bourse, du coup, pour moi, c'est limite un devoir, voilà, de servir mon pays. C'est pourquoi, en fait, j'ai décidé de rentrer et de promouvoir mon projet.
Alors, il y en a quand même qui disent que c'est compliqué, le retour. Comment est perçue la démarche du repat dans vos pays ? Quelle est votre image ? Est-ce que vous savez, Amissambe ?
Alors, moi, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est très bien accueilli. Parce que quand on part quand même de son pays, déjà, c'est pour une raison précise. Souvent, c'est pour aller chercher un peu plus de savoir, c'est-à-dire faire sa formation. Mais parfois, en fait, c'est pour chercher un avenir meilleur. Et quand on revient finalement chez soi, ça veut dire quelque part, on ne les a pas oubliés. Que quand même, on se projette dans l'avenir aussi avec eux. Et donc, moi, je pense que eux, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, enfin, c'est très bien accueilli et les gens sont super heureux de nous revoir et voilà.
Je vous pose cette question parce qu'il y a deux ans, on avait fait une émission sur une thématique un peu similaire. Un auditeur nous avait téléphoné en direct. Mm-hmm. Et il nous appelait du Togo. Et il était rentré avec toute sa famille après plusieurs années au Canada. Il voulait monter une entreprise. Et on lui disait à Lomé, mais à quel échec as-tu... quel est l'échec que tu as vécu au Canada pour que tu décides de rentrer ? Est-ce que c'est encore aussi un peu comme ça, la mentalité ou pas, Papa Wan ?
Non, pas vraiment. Au Mali, c'est pas ça.
Bon, pour ma part, moi je pense que c'est un peu ça. Parce que quitter la France et retourner au Mali, bon, pour la papa, on m'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens ici?
Ici, c'est la guerre.
Voilà, ici, il n'y a rien. Tout le monde rêve d'aller en France et vous revenez de l'autre côté. Donc, nous, au fait, on est animé par un espoir aussi de contribuer au développement de notre pays. Ça veut dire de créer de l'emploi, voilà, parce qu'on a cette double culture qui fait que, voilà, on a des automatismes et des savoir-faire qui font qu'on peut apporter quelque chose concrètement au pays. Donc, en termes de. Bah, d'emploi, de formation des jeunes qui sont là-bas. Donc pour ma part, moi aussi, j'ai une famille qui est là-bas, mes parents, mes petits frères. Donc voilà, c'était aussi dans cette démarche-là de pouvoir leur offrir un avenir de par eux-mêmes et pas attendre forcément de l'autre côté qu'on leur envoie tout le temps comme on fait traditionnellement pour aider la famille. Mais c'était aussi de pouvoir les aider à entreprendre et à développer. Quoi.
Nounou Dembaga, puisque vous, votre business a déjà démarré, vous êtes au Mali depuis
un an et demi maintenant.
Hein. Certains jeunes, et pas seulement des repates, hein, des jeunes qui sont restés sur le continent, disent quand on démarre une entreprise, quand on est jeune, c'est très difficile de se faire payer.
Au Mali ?
Par les clients. Sur le continent africain, pas spécifiquement au Mali.
Bon, après, ça dépend de la manière d'approche, mais c'est vrai, il y a ce côté social, au fait, qu'il y a en Afrique, qui est très très bien, mais qui, pour ma part, je trouve qu'il y a un peu trop et qui fait que ça handicape.
Mais du fait d'un conflit intergénérationnel, parfois ?
Oui, je pense, oui, le mot, c'est vraiment, c'est un conflit intergénérationnel, c'est vraiment ça, au fait.
Les petits jeunes, là, on va profiter d'eux, on va pas les payer, c'est ça ?
Oui, il y a ça, oui, bien sûr. Ça arrive, nous, on a eu un cas comme ça, quand on est arrivé. C'était très difficile. Mais c'est vrai que les gens étaient contents. Déjà, on va dire, la population, en fait, vu le concept qu'on a mis en place, qui s'appelait Kasanga, tout le monde était content de ce concept-là. Les gens étaient contents de notre retour, de ce qu'on a mis en place pour eux, parce que ça profitait à
ça. C'était un programme télévisé.
Oui,
Un peu comme la Star Academy, Star Academy, pour découvrir des talents.
Des talents en chant et en musique. Donc voilà, parce qu'on a quand même la chance et on a une chance. C'est de, notre métier, c'est de permettre aux autres de réaliser leurs rêves. Moi, je me dis que j'ai fait l'un des plus beaux métiers du monde. Parce qu'à chaque fois, on détecte des talents et on les aide à réaliser leurs rêves. Donc, il y a des chanteurs qui sont sortis dans Kassanga et tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis très fier en les voyant s'épanouir et gagner leur vie à travers ma contribution, ma petite contribution. Donc, pour dire que nous, quand on était partis au Mali pour Kassanga, les jeunes étaient tellement contents que, comme dit Noumou, c'est vrai qu'il y en a qui disent « Ah, vous êtes fous, pourquoi vous quittez la France, vous venez ici ?» C'est vrai, mais ça dépend de ce que tu es venu faire. Nous, par rapport à ce qu'on est venu mettre en place, c'était Kassanga et les gens étaient contents de consommer Kassanga. Et c'était tous les vendredis, c'était le plein du palais de la culture, c'était une effervescence totale partout dans le pays. Et même ici en France, les gens de la diaspora ils suivaient Kassanga. Donc, quelque part, les gens ont voulu s'identifier à nous. Ils aimeraient faire le même trajet qu'on a fait.
Mais je me suis peut-être mal exprimé, mais je te rejoins tout à fait, Papouane. Quand je dis qu'on nous dit qu'on est fou, oui, parce que la démarche est folle, bien sûr, parce que tout le monde rêve d'aller en Occident, et puis nous, on fait complètement le chemin inverse. Mais tout par contre, oui, là-bas, c'est bien accueilli. Hein. Quand je dis qu'on dit qu'on est malade, c'est que voilà, c'est ironique un peu. Mais c'est vrai que là-bas, la démarche est très, très bien accueillie. On me dit, oui, il y a besoin, justement, de. Et je pense que le développement de l'Afrique en général se fera aussi par rapport à
la diaspora,
qui va revenir et va entreprendre et développer des choses.
Que vous ont appris vos expériences professionnelles en France, puisque vous avez étudié, vous avez aussi travailler en France, est-ce que ça donne un plus ou ça crée aussi parfois un décalage dans la façon de travailler, d'appréhender l'organisation du travail, tout ça réellement, là, sans langue de bois, comment vous vous situez par rapport à ça, Amisson?
Moi, personnellement, je dirais que c'est un gros plus, en tout cas moi, de mon expérience, parce que j'avoue que, en tout cas, dans toutes les entreprises où je suis passée, ou même dans ma boîte de conseil en tant que telle, en fait, ils m'ont donné quand même pas mal d'outils personnels. Ils m'ont quand même aidé à développer même des qualités personnelles que je n'avais peut-être pas découvert.
La rigueur,
l'organisation. Je suis une maniaque de l'organisation. Donc, et parfois,
ces qualités-là, elles étaient en vous, c'est ça,
Je pense que personnellement, je les ai peut-être développées. Je sais pas, je pense pas qu'on est avec, mais je les ai développées et franchement, j'en suis très heureuse.
Donc vous êtes une enquiquineuse quand vous rentrez au Sénégal,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. C'est vraiment ça le bon terme, parce que parfois je me rends compte, par exemple, des gens qui annulent des rendez-vous à une semaine ou à deux jours. Moi, c'est des choses qui peuvent, voilà, que je n'arrive forcément pas à comprendre. Donc voilà, c'est vraiment un côté que j'ai. Je suis heureuse en tout cas d'en parler.
Ouais. Et ce décalage, Jean-Philippe Akpou, comment vous le vivez, vous?
Bon, en fait, il n'y a pas un décalage, en fait, puisque moi, j'ai grandi dans une famille, en fait, où mon père, il est enseignant. Du coup, c'était la rigueur depuis le bas âge.
Vous avez fait le geste, hein, d'ailleurs, hein, c'est carré.
Ouais, c'était vraiment ça, c'était... voilà, fallait étudier, fallait bosser, et fallait arriver à l'heure, à l'école. Du coup, j'ai été entraîné dans cet élan-là depuis tout petit, et j'ai eu à développer aussi dans mes expériences professionnelles ici.
Voilà. Quand vous êtes au pays, vous aimez vous fréquenter entre repas? Je ne veux pas dire que vous puissiez être replié sur cette communauté de repas, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui passe entre vous, même d'un pays à l'autre, de par ces expériences que vous avez vécues ou pas? Alors que là, vous venez pas des mêmes pays tous.
Oui, oui.
Oui, je pense qu'on a des choses qui se rejoignent, en fait. On a des points de convergence se rejoignent un peu. Donc voilà, là-dessus, en fait, on échange. Et puis ça fait du bien aussi, je pense, pour ma part, au Mali, de retrouver des repas et qu'on retrouve le même problématique.
Vous aimez partager quoi comme galère, par exemple?
Vous venez d'évoquer quelque chose. Vous dites qu'on a ce côté français, en nous, en fait, qui vient, où on est quand même assez pragmatique. Voilà, on veut que tout s'organiser, on veut que ça aille vite. Et complètement la différence en Afrique, en Mali pour ma part, c'est pas ça du tout, en fait. C'est notre école, on apprend autre chose. Quand je suis arrivé au Mali, quelqu'un qui m'a dit c'est l'école de la patience et de l'endurance.
Donc, c'est pas un cliché?
Ah non, 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 pas du tout. Là, il était dans le forêt, mais à 200%, c'est complètement ça. Donc on apprend autre chose, en fait, on apprend d'autres vertus. Donc la résistance, parce qu'il faut, la ténacité et la patience. Le plus dur, je pense, c'est la patience.
Moi, de toute façon, il en faut dans le business. Hein.
Ouais, ouais. Pour moi, des deux côtés, on gagne. On gagne, il y a des qualités ici, il y a des choses très avantageuses ici en France. En France, on apprend la rigueur, on apprend le professionnalisme, on apprend à compter sur soi-même, on n'est pas compté sur les autres. Et donc, fort de toutes ces qualités-là, quand on part au Mali, moi, personnellement, je ne peux pas compter sur quelqu'un. Moi, je peux pas, quand je fais un travail, j'aime mon travail, je le fais de manière professionnelle et je fais en sorte que ça soit bien fait et que les gens ils voient que ça s'est bien fait. Donc, ça, c'est des choses au
donc
Mali.
Donc, vous êtes un individualiste hein, pour vos compatriotes?
Non, pas. En fait, c'est des valeurs que j'ai eues ici. Tout n'est pas positif ici aussi, hein, mais les valeurs positives que j'ai acquises en France, donc je m'en sers en Afrique. En Afrique aussi, il y a beaucoup de choses qui sont pas mal, mais il y a des choses qui sont pas bonnes aussi. Donc ça dépend. On joue entre les.
On est dans la fusion.
Voilà.
C'est la fusion des choses, en fait. C'est ça. On est dans la fusion des qualités et des choses qu'il y a à prendre
voilà,
d'un côté comme un autre.
Comme votre cuisine,
d'ailleurs.
Afro-fusion. On va en parler, bien sûr, de vos projets respectifs. 7 milliards de voisins. Si vous êtes vous-même un repas entrepreneur dans votre pays, appelez-nous pour nous parler de ce qui vous exalte ou de ce qui vous énerve parfois. 33 1 95 22 71 71.
A superwoman, oh, with my baby, my Wonder Woman. Hey, a superwoman, my special woman. See my guy, take a cheap pill. This my baby, na di di di.
Yes,
no be the one where you feel steal. No be the ones where they rush you. Oh, oh, oh. My baby, no they wear bomb. As she gets so na follow come. All photo no be Photoshop. Fine get no be Mary Kay or Black. Hey, she make a wire wire. If na pants on a dollar dollar, I go send you figure where you go Maya Maya. Wells Fargo near me, me I go run up.
Go 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 run.
Hey, she make a wire wire. If na pants on a dollar dollar, I go send you figure where you go Maya Maya. Wells Fargo near me, me I go run up.
Yeah,
she na you one go near my bed. You know they fear face. When Obi say you don't curry, I be you chop crazy. Oh, oh, oh. Hey, if the play make you stop, babas, I know they take ammo. Yeah, cause I be bad chop guy, and I know they fake ammo. Oh, oh, oh. Hey, who is my baby, my Wonder Woman? Hey, a superwoman.
Repas chez 7 milliards de voisins en direct sur RFI, ceux qui rentrent au pays pour entreprendre avec Davido Wonder Woman. Ça, c'est le petit clin d'œil de Romain Dubrac. C'est pour vous, Ami Samb, sénégalaise.
Merci.
Vous avez terminé vos études en France, une partie d'ailleurs au Sénégal, puisque vous aviez fait Polytechnique au Sénégal. Le master, quelques années de consulting aussi en France, dans la finance. Et puis maintenant, il y a ce projet qui vous tient à cœur, Ami Samb, Félan, c'est-à-dire de la restauration. Pourquoi ça s'appelle Félan d'ailleurs?
Alors, Félan, c'est un nom inspiré de mes origines sérères, parce que je suis sérère, comme je vous le disais en fait.
La famille est de la région de Bambay.
Voilà, c'est ça. Je viens d'un petit village, je suis née dans un petit village qui s'appelle Dimbungoy, dans la région de Diourbel, au centre du Sénégal. Et donc, du coup, le nom Félan est inspiré de mes origines sérères, qui veut dire quelque chose de bon en sérère. Donc, moi, en créant cette marque-là, c'était deux choses pour moi. Je voulais partager d'une part mes origines, serrer, mais également partager d'autres valeurs qui sont personnelles à moi, comme l'amour, la bravoure, mais également mon amour, en fait, pour les produits locaux, en fait, du Sénégal, parce que je pense qu'ils sont peu, en tout cas, promus dans le monde. Et donc, du coup, moi, mon idée, c'était vraiment de faire en sorte que les produits sénégalais soient, en tout cas, vulgarisés, mais aussi que le raffinement de ces produits soit montré au
comme
monde entier.
Exemple.
Comme par exemple, on a la possibilité de faire des pâtisseries en base de fruits locaux. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup qui commencent à le faire, mais il y a beaucoup de fruits, comme notamment le bouillis, le bissab.
Le bouillis, c'est la poudre de baobab.
C'est ça, ouais. Exactement, le bissab, les feuilles d'hibiscus. Mais il y a également d'autres produits, hein, comme par exemple le fognon, qui est un produit, c'est l'équivalent du quinoa. Le quinoa qui est très très connu maintenant dans le monde, mais le fognon n'est pas du tout connu, mais pourtant qui a à peu près les mêmes vertus. Donc,
Et qui sert donc de céréales,
voilà,
en fait.
Voilà, hein. De céréales, qui a vraiment plein de vertus. Donc mon idée, c'est vraiment
Alors
ça.
Alors l'idée, c'est donc un restaurant, une chaîne de restaurants, mais avec quand même des bibliothèques, des livres pour les étudiants, un espace de travail pour les étudiants, pour les jeunes entrepreneurs, un atelier cuisine.
C'est ça.
Un petit côté un peu quand même co-working. Hein.
C'est ça. C'est effectivement ça.
Ça peut marcher, ça, au Sénégal, à Dakar?
Ça peut marcher à Dakar dans le sens où aujourd'hui, en fait, on a une société où, en fait, la tranche d'âge, en tout cas la majorité de la société, est très très jeune. Et pour dire de façon très très crue, ils ont la rage, en fait, de réussir. Donc plein d'entre eux sont en train de vouloir créer leur entreprise. Et l'idée, en fait, de Felan, c'est d'associer, en fait, des concepts qui répondent à des problématiques, en fait, au niveau local. Et donc d'où l'idée, en fait, d'associer ces trois concepts-là pour permettre à ces jeunes-là d'avoir des espaces.
Alors vous tablez sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes entrepreneurs, qu'il y aura donc un peu de pouvoir d'achat. Mm-hmm. Vous ciblez un peu une classe moyenne, finalement, grosso modo, même si c'est un projet social.
Alors, Felan, ce n'est pas forcément un projet social. C'est plutôt dans l'ordre de l'économie sociale et solidaire. Donc, le seul côté solidaire de Felan, c'est qu'on a décidé de mettre en place un fonds qui va permettre de financer, en fait, à hauteur de 5%, en fait, les projets à impact social, mais ça, en fait, ça sera...
Avec les bénéfices.
Avec les bénéfices, plutôt.
Donc vous
les
comptez
bénéfices.
Bien gagner de l'argent, quand
voilà,
même.
Voilà,
hein.
Exactement. C'est vraiment un projet à titre, voilà.
Alors, créatifs. C'est vrai que quand on sait que Dakar, la population va doubler d'ici 10 ans, hein, invité nous expliquait ça il n'y a pas longtemps, 7 millions d'habitants dans 10 ans, on peut se dire qu'il y aura de la place pour tout le monde, pour le business. Nounou Dembaga, vous, donc je disais, 31 ans, vous avez fondé la Toque Noire en France, donc des plats tout préparés, ça marche maintenant à Bamako. Oui. Vous en vivez?
Oui.
Ou vous en survivez?
Alors, on en survit, mais je vais juste faire une réplication. La Toque Noire, la société en France, c'est une société au fait qui faisait chef privé à domicile, organisation d'événements, traiteurs et du catering accessoirement. Quoi. Et donc, pour Bamako, on fait quelque chose qu'on ne faisait pas en France. Donc, c'est la livraison de plateaux repas au niveau des entreprises, qui est une activité qui a commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc, dire qu'on en vive encore, c'est pas encore ça, mais voilà, c'est en cours de... C'est en cours en devenir, on va dire. C'est en devenir. Donc voilà. Pour le reste, c'était quoi la question?
Les galères au quotidien là pour développer le business, quelles sont-elles?
Alors les galères au quotidien pour développer le business, c'est que il n'y a pas le même fonctionnement, si vous voulez, entre la France et le Mali. Le fonctionnement est différent. C'est vrai que au Mali, on est beaucoup plus enclin, en fait, à aller rencontrer les personnes pour voir qu'un business fonctionne. Il faut vraiment être parler avec les gens, aller à la rencontre des gens, et c'est vraiment le bouche à oreille qui fait que ça fonctionne. Donc en France, ça va être différent, on a les supports qui vont être les réseaux sociaux, ça va être la communication et autres, mais là ça va vraiment être one shot quoi, en fait. C'est vraiment d'être rencontrer les gens et parler avec eux quoi.
Vous pouvez bien sûr nous téléphoner soit pour poser des questions à nos repates entrepreneurs sur le continent africain, ou bien pour témoigner aussi de vos difficultés si vous êtes vous-même un repate en Afrique. 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui est à Bujumbura au Burundi. Bonjour Benny.
Ah, bonjour Manoline, comment va?
Très...
allez-vous?
Très bien, on va bien, on va tous bien, on est ravis de vous accueillir en direct. Vous avez une question pour nos jeunes repates qui vous écoutent?
Donc, je tiens un tout petit peu de vous dire mon parcours.
Oui.
Donc, c'est une formation dont j'ai bénéficié, une formation qui était de nature à nous éclairer sur la modalité, donc comment ça fonctionne, le marketing, donc en rapport avec des projets entrepreneuriales.
Oui.
C'était vraiment une formation très formidable.
Mm-hmm.
Donc, ce que j'aimerais interroger...
Donc, vous avez 23 ans et vous souhaitez vous aussi devenir entrepreneur, c'est ça, Benny, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, c'est ma vision et aussi l'ambition de l'être. Et j'y arriverai. J'y arriverai parce que je suis d'ici et là des informations en rapport avec l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs ici à Bujumbura, mais qui sont en panne de financement. Il n'y a pas de moyens financiers. Ils se trouvent bloqués à part donc Thomas.
Bon, mais il n'y a pas qu'au Burundi, hein, ceci dit. Est-ce que vous avez une question pour nos repates?
Ok, premièrement, je tiens à les encourager puisque ce qu'ils font, c'est formidable et c'est marrant. J'ai bien écouté, j'ai bien suivi.
Merci.
Donc, j'aimerais les interroger sur donc, leur agenda de recrutement. Qu'est-ce qu'ils ont l'ambition de faire dans l'avenir? Comment vont-ils recruter des jeunes chômeurs? Puisque ici en Afrique, vous le savez, il y a des jeunes qui prennent le risque et qui s'en vont en Europe, qui n'ont pas de moyens, qui se trouvent après les études, puisqu'il y a pas mal de jeunes se retrouvent à appeler leurs études bloquées avec le chômage qui est très excessif.
Ouais. Donc vous voulez savoir si ces repates ont une vision pour créer de l'emploi et pas seulement créer leur propre emploi. Merci beaucoup Benny Papawan. C'est une vraie question ça pour ceux qui sont restés et qui voient les autres entrer. Est-ce qu'ils vont créer du boulot?
Exactement, parce que les jeunes qui sont ici, qui ont un projet et qui rentrent chez eux, c'est pour créer leur entreprise déjà. Et quand ils créent leur entreprise, ça concerne les locaux qui sont sur place, qui vont embaucher. Donc ça crée de l'emploi. Donc ça crée de l'emploi et ça contribue au développement du continent. Donc le but, c'est ça, c'est l'épanouissement de la jeunesse.
Ce sont des questions là, que vous avez déjà abordées dans votre business plan.
Oui, pour ma part, par exemple, là, si tout se passe bien, on prévoit recruter l'année prochaine.
Oui, allez-y.
Près des 13 personnes.
Il ne faut pas toucher le micro, juste. Hein.
OK. On pourra écouter près des 13 personnes parce que on a besoin de développeurs, puisqu'on est dans un projet de création de plateformes digitales et numériques. Du coup, on a besoin de développeurs, on a besoin de commerciaux pour promouvoir en fait, notre activité, pour pouvoir démarcher des clients. Et du coup, on aura besoin de personnel. Donc, je vais m'installer en Côte d'Ivoire pour créer de l'emploi, en fait. Le but, c'est ça.
Ouais. Toutri, une plateforme digitale qui est partie finalement du problème de l'échec des étudiants à l'université.
Tout à fait. Problème des de l'échec des étudiants à l'université et au secondaire aussi, également. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, être scolarisé sans apprendre, en gros, c'est une occasion manquée parce qu'on peut être scolarisé sans avoir validé les acquis qu'il faut. Du coup, à travers notre plateforme, en fait, nous récoltons des statistiques assez précises sur le niveau de compréhension des étudiants et élèves et nous les transmettons aux professeurs, aux parents et aux établissements. Car ce sont ces personnes-là qui sont à même de prendre des décisions assez pragmatiques et adaptées pour pouvoir remédier au niveau de compréhension et au niveau de l'apprentissage des étudiants et des élèves.
Et sur l'application, les étudiants peuvent poser des questions aussi aux profs s'ils n'osent pas le faire pendant le cours.
En fait, c'est ça. Nous donnons la possibilité aux étudiants qui sont assez timides et ceux aussi qui ne sont pas timides de poser leurs questions assez pragmatiquement et anonymement. Mmh. Ce qui permet en fait d'éviter encore de se faire moquer. Parce que si on le fait à visage découvert,
Donc c'est vraiment une plateforme d'entraide pour les étudiants.
Tout à fait.
Ça n'a pas encore démarré en Côte d'Ivoire.
C'est en phase de test en Côte d'Ivoire. Le 8 octobre 2017, j'ai été en Côte d'Ivoire pour présenter à l'université Nangarougoua, qui est à l'université Abuba Djamé. Et le concept a été très bien accueilli. Sauf que sur place, on avait eu des problèmes de connexion Internet. Et voilà, c'était un téléphone qui n'était pas adapté. Donc, on a dû encore faire des réunions avec nos développeurs.
Ça s'est amélioré depuis aussi.
Tout à fait, oui.
L'Internet, le taux d'équipement en smartphone, etc. Et l'idée de cette plateforme, c'est que ce soit aussi les étudiants qui puissent s'entraider ensemble. Hein.
Oui, en fait, ce sont les étudiants qui s'entraident entre eux. Cette entraide est soutenue par les professeurs et avec l'œil assez pointu des parents qui ont pour seul objectif une bonne formation de leur enfant, en fait.
Alors, vous nous disiez, quand ça démarrera, donc dans combien de temps, là, d'ici quelques mois ?
D'ici quelques mois, là, on a déjà nos applications qui sont disponibles sur Play Store et App Store, et on a notre site web aussi. Du coup, en fait, là, on a besoin de partenaires, tous les établissements,
financiers.
Tous les partenaires aussi. Financiers aussi, tous les étudiants, tous les établissements et tous les investisseurs qui veulent, en fait, nous accompagner dans cette phase de croissance, là, parce qu'on va passer ce cap au niveau du développement. Technique, on est déjà au point. On a besoin maintenant de toutes ces personnes-là qui ont envie en fait de nous permettre de transformer en fait l'éducation en Afrique.
Et sur l'embauche pour les autres, Amisamb, par exemple, cette chaîne de restaurants au Sénégal, ça pourrait permettre d'embaucher combien de personnes
Alors,
quand ça verra
fait,
le jour.
Je pense que nous pourrons embaucher du personnel. Alors, aujourd'hui, on estime en tout cas au démarrage qu'on va peut-être partir sur 5 personnes d'embaucher. Et dans les 5 prochaines années, on espère quand même doubler ou tripler ce chiffre-là. Donc, c'est surtout ça. Alors, effectivement, c'est très, très important quand on crée une entreprise en Afrique. Je pense que pour beaucoup des gens de la diaspora. L'objectif premier, je pense, c'est pour créer des emplois. Et je pense que c'est ça qui nous motive, en tout cas pour la plupart.
Et pour effectivement jouer un vrai rôle social dans votre pays. Appelez-nous si vous êtes un repas. On aimerait bien aussi connaître votre point de vue. Si vous êtes réinstallé dans votre pays d'origine. 33 1 84 22 71 71. Diawara, Bonia chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle des repas aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs qui ont quitté le pays, le continent africain pour étudier, pour travailler, pour vivre d'autres expériences et qui ont envie de rendre, de redonner, de créer de l'emploi aussi, Papa Ouad, vous vouliez vous exprimer tout à l'heure.
Exactement. Enfin, sur ce volet-là, c'est très important parce que moi, je pense que en ce qui nous concerne, on a fortement contribué à la création d'emplois dans notre pays. sans vouloir être trop modeste, hein, parce qu'on a créé Kassara, et quand on est arrivé, honnêtement, dans ce concept-là, on a créé pas mal de boulot, que ce soit au niveau des artistes en herbe, qui étaient dans l'ombre, on les a mis à la lumière, donc ils vivent de leur art aujourd'hui.
Parce que vous vivez avec des créations de contenu télévisé. Hein,
exactement. Et il y a un concept déjà qui m'a fasciné, quand je prends ce concept-là, on a commencé à zéro franc, qui était, il y a le Bougou, la case du rire, et honnêtement, c'est un concept qu'on a imposé. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes comédiens qui gagnent leur vie à travers notre création...
Oui, qui auparavant n'avaient pas de visibilité. Vous avez fait ça aussi pour la mode,
on
hein,
a
je
fait
crois.
Aussi pour la mode. Et tout ça, c'est des jeunes qu'on a mis dans le circuit. Et je peux dire, je ne peux même pas citer le nombre d'emplois qu'on a créés. Ça peut être, bon, je ne sais pas, c'est énorme. C'est énorme et ça fait plaisir parce que moi, je suis heureux. Voilà, quand je vois ces jeunes sur le marché, ben, je suis très heureux.
Ouais, ça fait plaisir.
C'est ça, vous avez envie de donner une impulsion aussi pour aider les autres talents à éclore.
C'est ça, c'est donner une impulsion. Après, moi, je sais pas, mais en ce qui concerne mon projet, du coup, on passe de la formation, comme c'est dit, c'était une école hôtelière, donc c'est de passer de la formation, donc apprendre une certaine rigueur, au fait, un professionnalisme à des jeunes qui n'ont pas, ils sont passés de vision, et de les accompagner après, justement, sur le marché de l'emploi, en ce qui me concerne la restauration, qui, je sais, fonctionne et qui est une grosse, grosse demande, au fait, au niveau de l'Afrique, et les accompagner pour les jeunes qui voudraient aller sur le niveau entrepreneurial, c'est-à-dire les accompagner à créer une entreprise, à développer un business, et pour d'autres, répondre à des demandes très très fortes qu'il y a en Afrique en général, mais au Mali surtout. Quoi,
c'est et vrai. Avec un chaînon manquant, effectivement, la formation, en tout cas, il y a déjà hein, des écoles
oui.
hôtelières.
Il y a des écoles hôtelières. Après, il y a justement, comme on disait, ce côté français qu'on a, nous, c'est vraiment cette rigueur et ce professionnalisme qu'on
ouais,
essaie d'apporter
vrai,
là-bas.
La rigueur qu'on
la
apporte.
Rigueur,
la chaîne Azalaï, la chaîne Azalaï qui est un très grand groupe, et je salue au passage M. Bali, s'il nous écoute, qui est un visionnaire pour Mossadegh Bali, c'est ça, qui est un visionnaire. Et qui a eu, voilà, c'est un grand monsieur, et qui a eu cette idée ingénieuse, voilà, de mettre en place une école hôtelière où j'ai participé.
Alors, je voudrais vous lire quand même un message d'un auditeur, Jeff, qui est à Goma en RDC, qui nous dit, à propos des repas, le trésor de l'Afrique, c'est toute cette matière grise éparpillée à travers le monde. Dans mon pays, nous dit Jeff, il y a de véritables opportunités économiques pour la diaspora, mais il est souvent difficile pour les repas de trouver des repères pour entreprendre. Mais nos gouvernements ne prennent toujours pas conscience de l'immense apport que représenteraient ces compétences dans les économies africaines. Et ce que dit Jeff aussi dans son message, ça pourrait passer par la création de départements gouvernementaux, d'accompagnement, mise en place d'un cadre juridique spécifique qui encadrerait les investissements de ces repas décidés à contribuer au développement de nos pays. Mais comme déjà on n'encadre pas forcément beaucoup les entrepreneurs qui sont restés sur place, est-ce que vous demandez vous aimeriez un privilège, vous, quand vous rentrez, vous aimeriez que les gouvernements s'intéressent vraiment à vous? Est-ce qu'ils s'intéressent à vous dans vos pays respectifs ou pas d'ailleurs?
Alors, ils s'intéressent à nous, mais pas de
quand
la manière dont
vous souhaitez. C'est ça.
Oui, non, mais pas de la manière. Il n'y a pas un cadre dédié qui est mis en place pour la diaspora. Ouais. Nous qui faisons toute notre vie ici en rentrant au pays, on n'a pas un cadre dédié.
Non, c'est vraiment dommage.
Pour le Mali,
c'est vraiment dommage, je trouve, parce que voilà, il y a des choses qui sont faites, mais on ne va pas jusqu'au bout. Ouais. C'est vrai que pour les repas, quand nous qui veulent revenir au pays, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il n'y a pas de structures qui sont mises en place pour nous accompagner en termes de. Ça dépend, est-ce qu'on est personne qui rentre avec. Pour ma part, je rentre avec la famille. Donc voilà, quand vous avez des enfants, il y a beaucoup de choses en fait qui sont à mettre en place. Si je peux me permettre, après, ce qu'il y a de bien en fait pour le Mali, il y a des repas justement comme moi qui s'organisent. Donc notamment, je pense à Repat, qui est une association au Mali qui voilà, des jeunes qui sont qui se sont mis ensemble pour voilà, faire les choses. Il y a les ambassadeurs également, qui sont plus axés sur tout ce qui est le développement au niveau du business, qui font des accompagnements, qui sont en train de mettre des choses en place pour tous les jeunes qui
mais
vont venir derrière, qui
y
sont
y
beaucoup plus simples.
Il y a des structures sur place aujourd'hui, quand même, qui aident un tout petit peu.
Qui aident un petit peu, mais il n'y a pas cette communication.
Par exemple, le procès,
c'est
les entreprises qu'on a mis en place, que l'État malien a mis en place, ça nous aide quand même un peu dans l'accompagnement que nous mettons en place, nous, par exemple. Donc, s'il n'y avait pas leur coup de main, mais je pense que c'est pas jusqu'à maintenant, il y a des choses qui restent à faire.
C'est pas négligé, bien sûr qu'ils ont mis des choses en place. C'est très très bien,
à faire.
Mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est très très bien en place,
oui,
mais il faut aller
beaucoup
plus loin.
Il y a des structures qui sont bien, par exemple l'AGETIC et tout ça. Par exemple, moi dans mon programme, j'ai essayé d'aller vers des entreprises pour cette troisième édition qui vont m'apporter beaucoup. qui puissent être...
Un auditeur nous appelle, Falou nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Falou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Dakar, vous êtes informaticien, vous avez étudié en France de 2000 à 2005, hein, c'est ce que je vois sur mon écran. Oui. Vous avez donc été un repate quand vous êtes rentré en 2007.
Exactement, oui. Ouais. Donc,
Mais alors, il nous reste vraiment quelques minutes avant qu'on se quitte, avant la fin de l'émission, mais le bilan, c'est quoi aujourd'hui, Fallou?
Alors, le bilan, c'est que je suis rentré depuis 2007 au Sénégal, à Dakar précisément. Donc, après mes études, je suis venu pour créer une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Techno5 Group, donc dans le domaine du développement site web. Et malheureusement, je suis confronté à un problème de financement.
Oui.
Bon, du coup, ouais.
Et donc, voilà, vous avez mis la clé sous la porte ou pas, Fallou?
Non, pas pour l'instant. Juste, le projet est toujours en cours. Et là, actuellement, je travaille dans toute autre chose. Je gère une industrie dans le domaine du blanchisserie industrielle.
D'accord. Vous gérez une blanchisserie à défaut de faire tourner votre boîte correctement. Donc, le bilan est en demi-teinte pour vous en tant que repate, hein, Fallou. Merci de nous avoir appelés. Est-ce que les repates peuvent faire évoluer l'écosystème des PME dans vos pays respectifs? Est-ce que vous, à votre échelle, pouvez changer quelque chose? Il nous reste quelques minutes.
Bien sûr, oui.
Amissambe,
je pense que oui. En tout cas, on a, comment dire, notre participation. Je pense qu'avec notre participation, ça peut impulser quelque chose de positif.
Jean-Philippe Acpou.
Et moi, je suis tout à fait aussi d'accord avec Ramissambe. En fait, ce qu'on va apporter de nouveau dans l'écosystème de PME, dans nos différents pays, en fait, c'est tout ce qu'on a appris étant à l'extérieur. Mmh. On parlait tout à l'heure de la rigueur, de la diversité de notre professionnalisme. C'est toutes ces qualités-là, toutes ces skills qu'on a appris à l'extérieur, au niveau du professionnalisme.
Je dirais qu'il y a un facteur chance aussi à ne pas négliger, parce que moi je n'oublierai jamais quand on est rentré au Mali, on est tombé sur une entreprise qui s'appelle Malitel, l'entreprise de téléphonie mobile. Je crois que leur premier coup de main sur le sponsoring de Kassanga, ça nous a permis de vivre aujourd'hui. Parce que sans eux, s'ils n'étaient pas là, on était fini. Donc ça, c'est des entreprises qui contribuent à notre développement, c'est important aussi.
Pour que vous changiez quelque chose à l'écosystème, il faut qu'on vous tende la main.
Exactement. Voilà. Donc, et encore cette année, ils sont avec nous, donc on ne peut que se réjouir.
Et une petite question un peu personnelle à chacun d'entre vous. Est-ce que vous êtes particulièrement vulnérable en tant que repate par rapport aux sollicitations incessantes des proches restés au pays?
Non, c'est pas une gêne, mais c'est normal. Je veux dire, c'est normal. C'est quelque chose qui est ancré, qui est dans la culture, l'entraide entre la famille. C'est quelque chose de tout à fait normal.
Ouais. Après, ouais, mais certains disent que ça devient une pression insupportable pour entreprendre. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on fait des bénéfices, il faut les réinvestir dans l'entreprise.
C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que.
Moi, je pense qu'en fait, quand on entreprend, la chose que beaucoup oublient, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens, en fait. Déjà, on est obligé de faire beaucoup de choses, on est obligé de porter plusieurs casquettes à la fois.
Et en même temps, on n'a pas les moyens, en fait. C'est un plaisir, parce que imagine, moi, par exemple, ma petite maman, elle est là, elle regarde tout ce que je fais à la télé, elle est contente quand il y a un partenaire qui est là. Ah, pape, tu as eu ce partenaire dont je veux ma part.
C'est une pression assez énorme. Et ça, c'est sur tout le plan, en fait, parce qu'il y a des personnes qui t'écrivent pour demander des conseils. Alors que nous-mêmes aussi, on en demande.
Et puis, ça ne va pas s'arrêter après le passage de l'émission.
Il y a beaucoup d'amis aussi qui souhaitent faire la même chose. Moi, il y a beaucoup d'amis qui viennent nous voir et souhaitent faire la même chose.
Un message à faire passer à ceux qui nous écoutent.
Alors, moi, le message...
Il nous reste 5 secondes.
5 secondes. Moi, déjà, je crois que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance quand même dans la vie. Et je profite de pas mal d'opportunités qui s'offrent à moi, comme par exemple être sur le plateau de RFI en ce moment. Donc, je salue tous mes amis qui m'écoutent là.
En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous accueillir. Vous êtes tous rafraîchissants, plein d'optimisme et d'ambition. Merci à vous tous, Papa Wana, Missambe, Nounou Dembaga, Jean-Philippe Acpou. On se dit... À demain et bien sûr, même heure, même endroit avec l'équipe de 7 milliards de voisins. À demain.